toi.
Et toi.
Deux micros.
Un vélo.
Une question.
La pluralité du vivant pour y répondre.
Et même les spécimens.
L'espèce humaine.
Aujourd'hui.
Et toi. Tu te souviens de cette nuit-là?
Alors, ça se passe en 2016. Et je pars dans le sud, dans l'Hérault, pour faire du travail bénévole. Et donc voilà, logé, nourri, tout ça, dans un lieu très roots, très rustique, donc le strict minimum. Il n'y a pas de chauffage, c'est la montagne, on est en mars, il pleut, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien... d'inutile, il n'y a que les besoins de base. Bon, j'arrive surpris, un peu triste. Et voilà, je m'adapte et tout ça. Et les mois passent et puis je décide de prendre mon vélo et de partir explorer le coin. Donc je me fixe l'objectif du lac du Salagou. C'est à 50 km de là où je vis. Je prends mon vélo, je prends un sac, du saucisson, des biscuits, un pull ou deux, une tente, un sac de couchage. Donc, dans l'objectif de camper à côté du Salagou, quoi. Je pars, je sais pas trop où c'est, mais je prends mon vélo, je descends la montagne et puis j'y vais, quoi. Sans trop savoir où aller, en fait. Voilà, et je roule, 3-4 heures, et je me rends compte que bah, c'est bien loin, le lac du Salagou. Donc, je me fixe un autre objectif. Je vois un panneau, le Mont Carou, à 1000 mètres d'altitude. Bon, je tourne à gauche, je prends la route, ça monte, et ça monte pendant 4 heures, quoi, 4-5 heures, et ça n'en finit pas. Et plus je monte, plus il y a du vent, plus il y a de pluie. Moi, j'ai qu'un pull, on est le 1er mai, mais il commence à faire 5 degrés à 600 mètres d'altitude, quoi. Donc je commence à m'inquiéter, je me dis, ça va être compliqué de planter ma tente, vu le vent qu'il y a et la pluie. Je me dis, c'est... Bon, je sais pas trop comment je vais faire, quoi. Je pédale. Je m'arrête dans un petit hameau. Je toque aux maisons pour leur demander un peu si je peux pas m'arrêter, dormir ou planter ma tente dans le jardin ou avoir le toit, quoi. Et il y avait personne dans ce hameau. C'était un peu bizarre, comme si c'était fantomatique, quoi. Je reprends mon vélo, je continue à grimper. Et là, je tombe sur un espèce de temple. Un temple où il y a beaucoup de maisons... Un grand centre, en fait. Je vois des petits drapeaux, genre Népal. Genre ce qu'on trouve dans les montagnes au Népal, des petits drapeaux colorés et tout. Je me dis, bon, ça peut être accueillant. C'est peut-être un peu bouddhiste ou quoi. Bon, bref, je vais voir parce que c'est écrit Temple Zen. Voilà, c'est ça. C'est écrit Temple Zen. Donc j'y vais. Je roule et tout, et puis j'avance. Je vois personne. J'avance. Et je vois une hache plantée dans un rondin. Je me dis, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui m'attend? Bon, de toute façon, j'ai plus le choix. Là, il faut que je trouve un endroit où dormir. Et là, il y a un espèce de grand mec de plus de 2 mètres qui m'ouvre. Un colosse, quoi. Et je lui dis, salut. Bon, je sais que ça peut être surprenant que t'es un voyageur qui arrive comme ça, là. Mais voilà, je suis en vélo. J'aimerais monter en haut du Mont Carou. Et là, je sais pas trop où dormir. Donc voilà, est-ce que t'as pas... un endroit, une pièce pour moi, pour que je puisse dormir, passer la nuit, je te dérange pas. Voilà, je te demande pas de me nourrir. Voilà, donc il me dit ok, bah si tu veux, j'ai un grand dortoir un peu plus loin là-bas à 30 mètres. Et là, c'est vraiment un grand dortoir. Il devait y avoir 30 chambres, quoi. Au moins 30 chambres, mais il y avait personne, c'était abandonné. 5 salles de bain, 30 chambres. C'était. Voilà, et moi je me retrouve là-dedans tout seul, quoi. Incroyable. Et donc il me donne une chambre, c'est pas le choix qui manquait, du coup. Il me donne une chambre et il me dit, voilà, tu peux dormir là, donc un petit lit superposé, un petit robinet. Voilà, donc il m'a pas nourri, mais c'était pas grave, parce que c'était déjà très bien le fait que je puisse dormir au chaud, parce qu'il faisait froid et il pleuvait vraiment. Voilà. Et donc je commence à explorer après le dortoir tout seul, aller dans les salles de bain et tout, et c'était très bizarre, comme s'il y avait eu de la vie avant, mais il n'y a plus de vie du tout, quoi. C'était comme si ils étaient tous partis d'un coup. Voilà. Donc c'était un peu spécial. Donc je dors et tout ça. Et puis le lendemain, je repars, je lui dis au revoir, merci, et puis je repars. Et puis 1er mai, je reprends mon vélo, j'escalade le Mont Carou, en fait, jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude. Et il neigeait. Et il neigeait, et moi j'étais en t-shirt et en pull, ensuite. Voilà, c'était bien, c'était l'histoire. Et ensuite, je suis redescendu, ça m'a fait une descente de 45 minutes, et j'ai été me prendre une petite nuit à l'hôtel avec une douche chaude et un repas chaud. Voilà. Je dois dire que j'ai apprécié mes deux nuits à l'hôtel après. Surtout la douche aussi. Heureusement que j'avais à manger dans mon sac, j'avais de la viande séchée. De la viande séchée et des biscuits. C'était un peu léger. Voilà. Ouais, c'était le strict minimum, en fait. C'était, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Déjà, je pensais trouver sur... Et de base, je pensais même trouver de la nourriture dans la nature. Mais bon, c'était un peu ambitieux, mais j'aimais bien l'idée que je puisse trouver de la nourriture dans la nature. Ça s'est pas fait, parce que le froid, tout ça, j'avais plus la motivation.
La ville de Léonia se refait elle-même tous les jours. Chaque matin, la population se réveille dans des draps frais, se lave avec des savonnettes à peine sorties de leur emballage, enfile des peignoirs flambant neufs, extrait du frigo la plus perfectionnée, des conserves encore inentamées, en écoutant les derniers tubes avec un poste dernier modèle. Sur les trottoirs, enveloppés dans des sacs en plastique impeccables, les restes de Léonia d'hier attendent la benne à ordures. Pas seulement des tubes de dentifrice écrasés, des ampoules grillées, des journaux, des boîtes, des matériaux d'emballage, mais aussi des radiateurs de salle de bain, des encyclopédies, des pianos, des services de porcelaine. C'est moins à partir des choses qui sont chaque jour fabriquées, vendues et achetées qu'on mesure l'opulence de Léonia qu'au regard des choses qui tous les jours se trouvent jetées pour faire de la place aux neuves. C'est au point qu'on se demande si la véritable passion de Léonia est vraiment, comme on le raconte, la jouissance des choses nouvelles et différentes, ou si elle n'est pas plutôt d'expulser, d'éloigner, de se défaire d'une impureté récurrente. Ce qui est certain, c'est que les éboueurs sont accueillis comme des anges et que leur mission, qui consiste à remiser les restes de l'existence d'hier, est entourée d'un respect silencieux, comme un rite qui inspire de la dévotion. Ou peut-être est-ce simplement parce qu'une fois qu'on a jeté tout ça, personne ne veut plus avoir à y penser. Où les éboueurs portent chaque jour leur chargement. Nul ne se le demande. Hors de la ville, la chose est entendue. Mais chaque année, la ville s'agrandit et les immondices doivent reculer plus loin. L'importance de la production augmente et les piles s'élèvent, se stratifient, se déploient sur un territoire plus vaste. Ajoute que plus l'art de Léonard excellent à fabriquer des nouveaux matériaux, plus les ordures améliorent leur substance, résistent au temps, aux intempéries, aux fermentations et aux combustions. C'est une forteresse de détritus indestructible qui entoure Léonia, la domine de tous côtés comme un cirque de montagne. Voilà le résultat. Plus Léonia expulse de choses, plus elle en accumule. Les écailles de son passé se soudent en une cuirasse qu'on ne peut plus enlever. Se renouvelant tous les jours, la ville se conserve tout entière elle-même dans sa seule forme définitive, celle des ordures de la veille qui s'accumulent sur les ordures de l'avant-veille et de tous les jours, années, lustres. Les ordures de Léonia finiraient peu à peu par envahir le monde si sur la décharge infinie ne pressait, Au-delà de la dernière crête, les décharges des autres villes qui, elles aussi, rejettent loin d'elles des montagnes de déchets. Peut-être le monde entier, par-delà les frontières de Léonia, est-il recouvert de cratères de déchets, chacun avec au centre une métropole en éruption ininterrompue. Les frontières entre les villes étrangères et ennemies sont marquées par des bastions infectes dans lesquels les détritus de l'une et de l'autre s'étaient, se menacent, se mélangent. Plus l'altitude augmente, plus le danger d'un éboulement menace. Il suffit qu'un vieux pot, un pneu, une fiasque dépareillée roule du côté de Léonia et une avalanche de chaussures dépareillées, de calendriers des années passées, de fleurs desséchées submergera la ville sous son propre passé qu'elle tentait en vain de repousser. Mélangé à celui des villes limitrophes, enfin nettoyées, un cataclysme s'aplatira et aplatira la sordide chaîne montagneuse, effacera toutes les traces de la métropole, toujours vêtue de neuf. Déjà, on s'apprête dans les villes voisines avec des rouleaux compresseurs pour aplanir le sol, s'étendre dans les nouveaux territoires, s'agrandir, rejeter plus loin les nouvelles ordures. Extrait des villes invisibles d'Italo Calvino. Il m'a parlé comme un conte philosophique sur la place que prennent actuellement donc les déchets dans nos villes et notamment ce que l'on appelle le sixième continent qui dérive et que l'on n'arrive pas à traiter. Et je pense que le fait de traiter les déchets nous renvoie à notre responsabilité de citoyens.
C'était Et toi ?
Une récolte artistique et radiophonique itinérante autour de Nantes,
proposée par les anthropologues du vivant. Et toi ne se fait pas sans toi.
Retrouve Et toi
sur la toile
et nous
sur la route.